L'un dans l'autre,
l'info qui vous engage, animée par
Perrine
et
Elsa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de L'un dans l'autre, le magazine d'info locale de Radio B. Bonjour Perrine.
Bonjour Elsa, bonjour à toutes et à tous.
Rassembler, partager et faire travailler ensemble les établissements de santé, des artistes et des structures culturelles, c'est l'ambition du dispositif Culture et Santé. Son objectif, inscrire de manière pérenne la culture dans le secteur de la santé. Depuis 2002, le comité local de l'Ain travaille en ce sens. Il accompagne les porteurs culturels et artistiques dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux, présents sur le département. Chaque année, il organise un forum pour rendre visible la diversité des projets menés. Lors de cet événement, nous avons rencontré différents acteurs contribuant à ce projet, les organisateurs, les partenaires comme la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes et Intercis, structure du territoire innovation, culture et santé en Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que les associations, l'imaginerie et village qui nous parlent de l'intérêt de ce dispositif.
On les écoute tout de suite après les brèves. L'un dans l'autre, les brèves.
Colloque, penser une coparentalité sans inégalité.
L'UDAF, la CAF de l'Ain et la délégation aux droits des femmes organisent un colloque sur la coparentalité le 19 mars 2025 à Bourg-en-Bresse. Experts et professionnels échangeront sur les défis des jeunes parents, la charge mentale, la place des pères et les dispositifs de soutien à la parentalité. L'événement a lieu tout au long de la journée entre 9h et 17h et se déroule à la salle de conférence rue Bourmeilleur à Bourg-en-Bresse. L'inscription est obligatoire en ligne.
Ça fait des siècles que les femmes demandent l'égalité.
Du 8 au 17 mars 2025, le campus de Bourg-en-Bresse de l'Université Lyon 3 met à l'honneur la lutte pour l'égalité femmes-hommes à travers une exposition inédite. Réalisée par l'association Sissi, les femmes existent, cette exposition propose une déambulation entre l'infirmerie et la bibliothèque universitaire, mettant en lumière 12 portraits et citations de figures féminines historiques et engagées. Ce temps fort, porté par la mission Égalité et lutte contre les violences sexistes et sexuelles de l'université, est également l'occasion de sensibiliser les étudiants aux enjeux de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. L'exposition est ouverte à toutes et tous.
Festival Voix mêlée 2025, la poésie en lumière.
Du 8 mars au 12 avril 2025, le festival Voix mêlée revient pour sa 11e édition à Bourg-en-Bresse et Perona. Cette année, deux poètes invités, Hélène Lanscotte à l'écriture imagée et sensorielle et Jean d'Amérique, figure montante de la poésie haïtienne qui mêle vers, musique et engagement. Au programme, rencontres, ateliers d'écriture, lecture musicale, scène ouverte et déambulation poétique. Une occasion unique de célébrer la poésie sous toutes ses formes. Plus d'infos sur les événements et réservations auprès des lieux partenaires, le théâtre Arphonème, la tannerie à Bourg-en-Bresse ou encore la médiathèque de Perona.
Pour les amateurs de randonnée, une initiative originale à venir.
La compagnie Le Couac à Simandre-sur-Suran va ouvrir un sentier culturel de 135 km à travers le Revermont, s'inspirant du célèbre chemin de Stevenson, traversant les Cévennes jusqu'à la Camargue. Un projet ambitieux lancé avec le soutien de Grand Bourg Agglomération. L'itinéraire va traverser 20 communes, 2 se situent dans le Jura et les 18 autres dans l'Ain. Le circuit partira du château de Tréfort pour rejoindre le Mont-Mion via les Conches, Simandre-sur-Suran, Racouze et Arnans. Ce parcours, qui disposera d'un balisage distinctif, va emprunter les sentiers déjà existants et faire découvrir les sites remarquables du Revermont. Vous pourrez l'emprunter dès la fin du mois de juin. Ce sentier culturel s'inscrit dans le prolongement du Festival des colporteurs qui se déroule durant la deuxième quinzaine d'août. Le parcours sera alors animé par des événements et installations d'œuvres d'art. Renseignements sur le site www.lavoiedescolporteurs.com.
L'un dans l'autre, l'interview.
En Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2001, plus de 350 établissements de santé se sont engagés dans le dispositif Culture et Santé. Grâce aux expériences culturelles, de nombreux bénéfices sont observés, comme l'amélioration de la trajectoire des patients ou encore la création de relations soignants-soignés. Lors du dernier forum Culture et Santé organisé par le comité local 01, nous avons rencontré Floriane Mercier, conseillère pour l'action culturelle et territoriale à la Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, et Séverine Legrand, directrice de la structure du territoire et innovation culture et santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle nous explique ce qu'est le dispositif culture et santé.
C'est un programme interministériel qui permet au ministère de la Culture et au ministère de la Santé de porter conjointement, avec parfois sur les territoires des collectivités, des projets à destination des personnes qui sont soit dans des établissements médico-sociaux ou de santé, et aussi tout ce qui est lié au handicap, des projets avec des artistes au long cours et qui leur permettent de rencontrer cet univers artistique.
Oui, peut-être juste rajouter que les enjeux qui sont développés autour de ce programme Culture et Santé, c'est l'idée de réinterroger la personne au-delà de son statut de patient, de personne en situation de handicap ou de personne âgée, et du coup de lui donner accès à sa pleine citoyenneté et du coup l'accès à la culture également.
Alors, quel type de projets peuvent être soutenus dans ce cadre ?
L'idée, c'est vraiment d'abord d'être des projets partenariaux à trois entités. Un établissement de santé, donc hospitalier ou médico-social, comme le disait Floriane, en partenariat avec un équipement culturel de son territoire et également, du coup, l'intervention d'un ou plusieurs artistes avec l'idée que dans le cadre de ce partenariat-là, on puisse permettre à des participants qui peuvent être les personnes accompagnées, qui peuvent être les personnels de l'établissement, mais aussi les familles et également des habitants du territoire, à la fois de découvrir des œuvres, à la fois de pratiquer et aussi d'être dans des processus de création, avec à chaque fois l'idée aussi que tout ce projet et le processus partagé puissent être à un moment donné être visible dans la cité, du coup avec des valorisations qui peuvent être accueillies dans l'établissement de santé ou dans l'équipement culturel.
Donc ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il peut y avoir de la création ou des expositions au sein des établissements de santé ou médico-sociaux, et qu'en fait, ces œuvres sont ouvertes, sont accessibles à tout le monde, même en dehors des patients, même en dehors des soignants, c'est bien ça ?
Oui, c'est l'objectif. Alors peut-être que parler d'œuvres, c'est compliqué. L'objectif, comme l'a rappelé Séverine, c'est pas tellement de placer les personnels ou les personnes en situation de devenir des artistes ou des créateurs, mais de traverser en fait une expérience artistique. Et donc néanmoins, comme dans tous les projets, il y a un début, un milieu et une fin. Et bien évidemment, il arrive que dans la fin, des choses qui ont pu être produites, que ça soit du spectacle vivant, d'ailleurs on l'a pas dit, mais c'est des artistes aussi bien de la danse, du théâtre, de la musique, mais aussi des arts visuels, parfois même des projets qui sont liés à des enjeux patrimoniaux, d'archives, des auteurs et parfois même des journalistes peuvent être présents dans ces projets. Et l'idée, c'est qu'effectivement de donner à voir plutôt le chemin parcouru ensemble artistiquement. Et quand il peut y avoir des photos, mais ça peut être aussi des récits de projets. Et ça, c'est l'enjeu rappelé tout à l'heure. C'est bien évidemment que ça se passe à l'intérieur de la structure, mais que ça puisse aussi être visible à l'extérieur. Ces personnes-là et ces personnels sont des habitants d'un territoire. Et donc, c'est important que la cité avec un grand C puisse accueillir ces projets et ce qu'ils ont permis de faire, ou en tout cas ce qu'ils ont permis de traverser à travers des témoignages parfois artistiques et parfois tout simplement documentaires, on va dire, de la démarche.
Alors, dans un contexte où les budgets culturels sont en baisse, comment maintenir et développer ce type d'initiative ?
Alors, on est d'abord, je pense, dans un partenariat, et ça c'est important de le rappeler. La question des financements, c'est celle des financements croisés. Aujourd'hui, si ces programmes ils existent, c'est parce que le ministère de la Culture, bien sûr, mais je l'ai dit tout à l'heure, des collectivités territoriales, un autre ministère, et aussi toutes les structures culturelles qui s'y engagent, hein, en réalité, et les structures médico-sociales aussi, puisqu'elles y mettent des moyens, s'accordent sur le fait que pour toutes ces parties, c'est quelque chose d'important dans la vie démocratique d'un pays. Donc je pense que c'est moins la question du développement finalement que de continuer à faire vivre ces projets collectivement et de maintenir en fait ce partenariat. Alors oui, parfois peut-être qu'on devra faire des choix, mais en tout cas l'essentiel c'est de continuer à les faire ensemble et de s'accorder sur les ambitions qu'on partage.
Peut-être pour compléter, effectivement, la question du partenariat me venait en premier, mais il y a aussi la question du réseau et de l'ancrage territorial. Et c'est un peu ce qui est fait aujourd'hui dans cette journée de rencontre du comité local, puisque c'est des collectifs qui ont justement pour vocation de mettre en résonance ce qui peut déjà exister à l'échelle d'un territoire. Et on sait bien que quand cette résonance se fait, finalement, il y a plein de convergences et de passerelles qui peuvent se faire. Et là, pas forcément en allant chercher des moyens supplémentaires qui permettent d'enrichir les projets déjà existants ou simplement de présenter, de proposer ces projets à d'autres. Donc je pense que cette mise en réseau, le fait que tout le monde à l'échelle d'un même territoire puisse se connaître, se rencontrer et faire exister un peu plus largement ses propres projets, permet justement de développer sans forcément toujours avoir besoin d'aller chercher des compléments financiers.
L'ancrage territorial, justement, il passe par les comités locaux culture et santé. Nous avons rencontré les référents du comité de l'Ain, Franceline Malarin-Borel et Philippe Constant. Ils travaillent depuis de nombreuses années sur ce dispositif. Nous avons demandé quelles étaient les évolutions de culture et santé sur le département.
Alors, l'Ain a toujours été un département très dynamique en termes de projets culture et santé. Philippe pourra en témoigner. De plus en plus, les projets... Alors, il y a eu l'ouverture au médico-social, en fait, il y a quelques années, puisque à l'origine, les projets culture et santé n'étaient ouverts qu'aux établissements de santé. Et depuis quelques années, c'est ouvert au médico-social. Donc, on a eu toute une salve de nouveaux établissements qui ont pu... candidater à cet appel à projet, ce qui a permis en fait au département de l'Ain de multiplier finalement les projets culture et santé sur le territoire.
Oui, c'est exactement ça, avec évidemment des différents types d'établissements qui se sont révélés très porteurs de projets, notamment les EHPAD qu'on a vu arriver avec plaisir depuis maintenant une bonne dizaine d'années, qui sont très très bien représentés maintenant.
Comment sont choisis les projets alors qui vont pouvoir être menés à bien sur tout le territoire ?
Alors, en fait, y a un appel à projet qui est lancé chaque année par le dispositif régional Culture et Santé, qui est mené par l'association Intertis, qui est coordonné par l'association Intertis Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, le programme régional Culture et Santé, c'est donc le ministère de la Culture en région, la DRAC, la région, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, et l'ARS, l'agence régionale de santé, qui en fait font, entre guillemets, pot commun pour aider les établissements de santé et médico-sociaux à développer une dynamique culturelle en leur sein. Donc pour qu'un établissement puisse développer un projet culture et santé, il faut qu'il réponde à cet appel à projet sous forme d'un dossier, à présenter dans le détail le projet qu'il souhaite mener, à savoir qu'à chaque fois c'est une histoire à trois partenaires, l'établissement de soins ou médico-social, une structure culturelle de territoire et une équipe artistique. Donc ce sont ces trois partenaires-là qui conçoivent ensemble ce dossier qui est ensuite présenté en commission régionale culture et santé. Et donc un avis est donné à chaque fois. Et nous, au sein du comité local culture et santé, on est là pour accompagner ces porteurs de projets-là, les établissements de soins ou médico-sociaux, pour les aider à faire ce dossier, mais aussi plus largement à réfléchir à qu'est-ce qu'une dynamique culturelle au sein d'un établissement et puis à peut-être les aiguiller des fois sur des partenaires potentiels, des artistes, des structures culturelles.
C'est un peu le but aussi de cette journée, c'est de faire rencontrer ces mondes parce que parfois des professionnels du monde de la santé ou du médico-social n'imaginent pas qu'ils peuvent avoir accès à ce dispositif qui peut vraiment nourrir leur projet. Pas mal d'établissements l'inscrivent maintenant dans leur projet d'établissement. Hein, le parcours artistique fait maintenant parcours de santé parfois. Et c'est très important pour nous de travailler ces questions. Je crois que le comité il est là aussi pour pallier à parfois un sentiment d'isolement qu'on peut avoir dans un établissement. Je prends l'exemple par exemple d'un EHPAD avec un service d'animation ou de coordination de la vie sociale qui va avoir envie de porter un projet, mais au milieu de beaucoup de professionnels qui sont là pour le soin ou pour l'accueil, pas toujours évident, effectivement, de trouver des interlocuteurs. Là, c'est aussi de faire réseau et de se retrouver aussi sur un territoire. Alors, le problème qu'on a aussi, ce n'est pas un problème, c'est une opportunité, on va dire aussi, mais que le département de l'Ain est très grand, très espacé entre le Pays de Gex, la Dombes, la Bresse, etc. Donc, on essaie parfois d'avoir ces points d'ancrage. Alors, pas mal, évidemment, autour de Bourg-en-Bresse, parce que c'est assez central, mais la prochaine fois, nous irons du côté de Belley. pour essayer de, voilà, d'aller à la rencontre aussi des porteurs de projets.
Et donc, vous avez parlé de la dynamique culturelle dans les établissements de santé. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'utilité, en fait, d'apporter la culture dans les établissements de santé?
Alors, quelle est l'utilité de la culture? Elle est comme en dehors des établissements de santé. D'abord, on a un droit à l'accès à la culture. Hein. La déclaration de Fribourg le précise bien. Je sais que France Linné est très experte sur le sujet. On a eu la chance d'avoir une conférence il y a quelques années dans le cadre de ce même événement. On avait un philosophe qui était venu, philosophe belge, M. Carton, qui nous avait vraiment aiguillé sur ces questions-là. C'est un droit à l'accès, tout simplement. Alors évidemment, c'est le vivre ensemble, c'est de faire en sorte qu'une personne n'est pas considérée comme étant simplement un patient, un résident, mais une personne à part entière. C'est aussi de cultiver les quatre axes que nous aimons bien travailler, c'est-à-dire effectivement les personnes accueillies dans ces établissements, les professionnels qui travaillent avec eux, les familles qui les accompagnent et le dehors. Ça, c'est aussi très important de travailler sur le voisinage, sur les associations locales, les écoles, etc.
Nous avons rencontré David Barrault, coordinateur de l'Imaginerie, une association qui met en avant par l'image, participer à ce forum Culture et Santé de l'Ain. Il nous explique pourquoi il est présent.
Je viens depuis 2 ou 3 ans parce que du coup ça met en lien des personnes qui travaillent dans le médico-social ou l'hospitalier avec des personnes qui font dans le culturel. Moi c'est quelque chose qui me tient à cœur et donc du coup c'est comme ça que je suis venu au départ et puis aujourd'hui je participe à un projet Culture et Santé.
Alors quel projet ?
Eh bien, on a créé à l'EHPAD de Châtillon sur Chalaronne, un studio de télé où on fait des portraits des personnes pour que les personnes de l'EHPAD se connaissent, connaissent le personnel, parce que c'est un EHPAD où il y a beaucoup d'habitants, donc il y a 200 personnes qui habitent là-bas, donc il y a beaucoup de personnel, il y a beaucoup de visiteurs, et les gens se croisent et ne se connaissent pas. Et l'idée, c'est de faire 3 portraits par semaine qui sont diffusés sur les télés de l'EHPAD, et pour que les gens apprennent à se connaître. Et la première saison, on a sorti déjà 60 portraits.
Donc vous dites la première saison, ça veut dire que ça va être renouvelé comme projet ?
On a réussi, oui. Moi, du coup, j'ai réussi à former l'animatrice de l'EHPAD au tournage en studio. Donc elle est autonome maintenant pour ses tournages. Je fais ses petits tournages. On a fait acheter du matériel, mais pas très cher, pour qu'elle puisse faire des tournages quand même en bonne qualité, des petits micros HF pour que le son soit bon. Et elle fait les tournages, elle m'envoie les images et moi je fais les montages que je lui renvoie et elle les met sur la télé.
Autre exemple d'acteur culturel qui participe au dispositif, l'association Ville Âge. Basée dans la vallée du Suran, dans le Revermont, organise des temps d'échange entre générations qui vivent les unes à côté des autres, mais qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Pour Lucille Folliot, ces projets contribuent à créer du lien entre les jeunes et moins jeunes.
On est vraiment là pour faciliter la rencontre, développer des outils qui vont encourager la communication, déconstruire les idées reçues qu'il peut y avoir entre les générations. Et voilà, moi j'aime bien l'image qu'en fait on plante une graine, on l'arrose, on entretient au début et puis après ça pousse et ça nous appartient plus. Et puis des fois la relation prend, des fois ça prend pas, mais voilà, on a vraiment été là au début de la rencontre et donc on voit que dans des villages comme Simon-sur-Suran, les enfants se reconnaissent, reconnaissent les personnes âgées avec qui elles étaient à l'école dans la rue, ils se disent bonjour, il y en a qui s'apportent des fleurs ou des gâteaux, qui s'envoient des cartes postales quand ils partent en vacances l'été. Enfin, voilà, il y a vraiment des belles relations qui sont nées de ces rencontres dans les écoles. Et donc on est vraiment satisfait de voir que ça peut répondre à un besoin de territoire, quoi.
Alors, dans un contexte de diminution des budgets alloués à la culture, quels sont les principaux défis que rencontre Village ?
Eh bien oui, c'est un vrai défi justement de savoir comment financer et pérenniser les actions de l'association, puisque comme on n'a pas des activités lucratives et qu'on veut rester accessible à un maximum de personnes, donc les gens payent une adhésion pour pouvoir participer aux activités, mais ça ne permet pas de financer l'intégralité de nos actions. Et donc on est dépendant de subventions publiques ou via des fondations privées. Donc moi je passe une une grosse partie de mon temps à remplir des appels à projets, à monter des dossiers justement pour pouvoir obtenir des financements. Et voilà, on essaye de développer un peu les différentes, enfin, pérenniser un peu un modèle économique, mais c'est pas évident parce qu'on est effectivement beaucoup dépendant des subventions. Donc voilà, on verra ce que nous dira l'avenir.
Donc là, on se rencontre dans le cadre d'une rencontre justement autour du dispositif culture et santé. Est-ce que vous avez un projet en cours ou un projet que vous avez déjà mené et dont vous aimeriez parler ?
Alors, on a effectivement mené un projet l'année dernière avec l'EHPAD de Villereversure, avec l'EHPAD Harry Joffré, et donc on a créé une petite création artistique qui a duré pendant 6 mois avec un groupe d'enfants du village de Ramas qui sont venus donc à l'EHPAD pour créer avec une dizaine de résidents en lien avec la compagnie Passe Montagne qui du coup les ont accompagnés à créer une petite forme artistique et théâtrale musicale sur le thème du vêtement, et donc ça a abouti à une présentation publique l'année dernière. Qui a été présenté donc à l'EHPAD. Et cette année, on est en projet avec la compagnie L'Emballé, et donc on voudrait faire un projet autour de la correspondance, toujours à Villereversure, en s'appuyant donc sur les structures locales. Il y a un IME, il y a l'école, le centre de loisirs, une résidence autonomie, l'EHPAD, enfin voilà, tout ça, s'appuyer sur les structures pour faire un projet de réseau de correspondance entre les gens du village et pouvoir créer du lien autrement que par la rencontre physique de prime abord, mais voir qu'il peut y avoir des liens aussi qui se créent à travers des cartes postales, l'envoi de cartes postales, et après l'envie, susciter la rencontre et l'envie de la rencontre, mais dans un second temps.
Si vous voulez en savoir plus sur ce dispositif dans l'Ain, rendez-vous sur www.intersis-auvergne-rhône-alpes.fr.
Radio B, les bonnes ondes.
L'Ain dans l'Aude, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Elsa.
Et merci Perrine. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du magazine d'info locale qui vous engage.
En attendant, on reste à l'écoute des bonnes ondes de Radio B.
Sur 90 FM.
L'Ain dans l'Aude.
L'info qui vous engage, animée par
Perrine
et Elsa.